Bonjour Laurent Pinatel.
Bonjour.
Diriez-vous qu'Emmanuel Macron a su parler aux agriculteurs au Salon de l'Agriculture ce week-end ?
Ben c'est un peu particulier parce que bon, il y a l'aspect relation entre Emmanuel Macron et les syndicats agricoles, qui a été réduit à sa plus simple expression. Hein. Ça a été une heure de petit déjeuner dès le début du salon à 7h30. Enfin, ça devait être 7h30, c'était 8h, il arrive un peu en retard. Puis après, il y a eu cette fameuse... ce record de longueur qu'il a voulu battre là, ce record de durée dans les allées du salon, on voit qu'il y a eu des propos très fermes. Il n'a pas reculé sur certains points, sur le glyphosate notamment. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un dialogue ou est-ce qu'il est venu je sais pas. Moi, on a eu l'impression qu'il venait parce qu'il fallait venir, qu'il avait rien à apporter comme proposition. Il n'y a pas eu de grandes annonces et il y a quand même des espèces de gros nuages qui planent sur l'agriculture aujourd'hui.
Il y a plusieurs motifs d'inquiétude. D'un mot, puisque vous avez évoqué le glyphosate, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, disait hier dans le JDD qu'il pourrait y avoir éventuellement des exceptions à l'interdiction du glyphosate. Est-ce que ça, c'est une idée en fonction des situations? Est-ce que c'est une idée que vous approuvez ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus ferme?
Nous, du moment qu'on rentre dans les exceptions qui existent déjà, hein, par exemple les néonicotinoïdes, qui sont ces insecticides notamment qui ont été mis en cause dans la mortalité abondante des abeilles, ouais. Les néonicotinoïdes sont interdits, mais sont déjà l'objet de dérogations. Donc on repart exactement sur le même schéma sur le glyphosate, mais au-delà, il faut se poser la question, c'est de quoi le glyphosate est-il l'illustration? Le glyphosate, c'est l'illustration de l'agriculture où on peut travailler vite. C'est-à-dire, on désherbe ses sols, et on ne laboure plus et on peut avoir des grosses surfaces. Donc sur le glyphosate, nous, il nous semble qu'il ne faut pas d'exception. Il y a 10% de cas dans lesquels on ne peut pas se passer du glyphosate. Il faut faire retravailler l'agronomie, il faut faire retravailler l'INRA pour avoir des alternatives mécaniques, des alternatives techniques et non pas chimiques aux désherbants et aux pesticides.
Oui, l'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a salué pour sa part samedi la prise de position très ferme d'Emmanuel Macron devant les autres chefs d'État européens sur le budget de la PAC, la politique agricole commune. La prochaine PAC, c'est l'un aujourd'hui des motifs d'inquiétude du monde paysan.
C'est un motif d'inquiétude pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, comme on l'avait souligné, nous, Confédération Paysanne, à Emmanuel Macron, début janvier, lors de ses vœux à Saint-Genès-Champanel, dans le Puy-de-Dôme, il faut maintenir le budget. Aujourd'hui, le budget de la PAC, ce qui retombe en France depuis l'Europe, c'est 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards d'euros vont être impactés par la sortie de la Grande-Bretagne, qui est contributeur net, vont être impactés par les politiques indispensables humainement à supporter par l'Europe. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent dans nos pays, les populations déplacées, les populations migrantes, qu'il va falloir aider dignement. Donc ça va impacter le budget de la PAC. Et donc... les inquiétudes, c'est, un, si le budget n'est pas préservé, il va falloir faire mieux avec moins. C'est-à-dire des outils de régulation, adapter l'offre à la demande pour donner du revenu aux paysans et aux paysannes. Si la PAC, on arrive à avoir un budget un peu plus conséquent, nous, on a longuement rencontré la Confédération Paysanne hier matin, Michel Barnier, qui est commissaire européen, qui gère la sortie de l'Angleterre de l'espace économique européen, et on a rencontré aussi Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une PAC qui soit légitime. La PAC ne sera que légitime si elle produit une alimentation de qualité, avec des paysans nombreux et nombreuses. Donc il faut tout revoir le système, et là c'est un vrai enjeu à venir.
Alors, à propos d'agriculture de qualité, où en est le processus lancé lors des états généraux de l'alimentation sur la fixation du prix de vente des produits agricoles? Je rappelle que l'idée annoncée à ce moment-là par Emmanuel Macron, et qui avait été présentée comme une révolution, le terme a été employé, c'était que l'on parte désormais du coût de production pour fixer le prix de vente. Où en est-on dans ce processus-là?
Alors, effectivement, états généraux de l'alimentation, Emmanuel Macron qui arrive, qui attaque directement un gros chantier, qui pose sur la table toute l'organisation de l'agriculture, répartition des marges, vision de l'agriculture, vraiment un projet ambitieux. Nous, on y est allé, comme des fous dedans, on a travaillé, il n'y a pas eu que nous, et sont ressorties des lignes fortes. Et aujourd'hui, on arrive devant l'Assemblée nationale avec un projet de loi qui est là et qui vide de son sens, en fait. L'État n'est que là en spectateur, il n'est pas là en rôle d'arbitre pour arbitrer les relations commerciales.
On en avait parlé au moment des états généraux avec vous, et c'était un point que vous aviez souligné comme très important.
Il faut bien sûr
une capacité d'arbitrage.
Voilà, là, on est autour de la table, ici, dans les studios de RFI, c'est comme si on n'était pas d'accord, et puis que l'État nous regarde depuis la régie en disant, allez, soyez sympa, mettez-vous d'accord. Entre Lactalis, qui est multimillionnaire et qui a l'omnipotence sur le marché du lait, et puis le paysan de base qui a juste envie qu'on vienne chercher son lait pour pas qu'il périme. La relation, elle est pas équitable. Donc, il faut que l'État arrive, comme un arbitre, en fait, et qui sorte le carton jaune ou le carton rouge pour dire non, il faut rémunérer correctement les paysans. Nous, on a bien peur, avec ces états généraux de l'alimentation, qu'en fait, après tout ce grand ramdam là, on a peur qu'en fait, la montagne accouche d'une souris.
Le projet de loi dont vous parlez, dont vous dites qu'il a été vidé de son sens, c'est celui qui vous a été transmis pour travailler dessus, ou alors, c'est une fuite?
On a eu des fuites sur le projet de loi. On a eu des fuites qui étaient, voilà, on le trouvait imparfait, ce projet de loi. Après, le projet de loi qui a été déposé par Stéphane Travers devant l'Assemblée nationale, là, c'est pas le même. On sent que les lobbies ont fait leur boulot. On sent qu'on ne va pas remettre en cause la mainmise de l'agroalimentaire sur l'agriculture. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On voit bien qu'il y a des forces de l'immobilisme qui se sont mis en route. Ceux qui ne veulent rien changer à l'agriculture. On l'a vu l'autre jour, dès le discours, dès la séquence inaugurale du petit déjeuner, on a bien vu que Christiane Lambert, la FNSEA notamment, ne veulent rien changer à l'agriculture. Moi, Christiane Lambert, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux paysans, mais réveillez-vous, quoi. On a quelqu'un qui est en face de nous qui nous dit, il y a rien qui va. Mais on va rien changer. On va rien changer parce que l'agroalimentaire, Dossi, Prince de Bretagne pour les légumes, Bigard, Lactalis pour le lait, sont en train de faire des fortunes sur le dos des paysannes et des paysans, et que quelque part, bah, c'est eux qui tiennent le système, quoi.
Parmi les motifs d'inquiétude également, il y a l'accord de libre-échange avec le Mercosur, l'Alliance économique d'Amérique du Sud. La crainte, c'est l'importation en Europe tous les ans de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine, sans ou presque sans droit de douane, et également sans véritable garantie sur la qualité des produits.
Voilà, donc là on parle beaucoup, on en a parlé pareil avec Phil Hogan, le commissaire européen, hier matin. Emmanuel Macron dit, rassurez-vous, il y aura des lignes rouges. C'est-à-dire, on va laisser venir de la viande, mais par contre, il n'y aura pas d'hormones. Les hormones, elles sont interdites. Heureusement qu'il n'y en aura pas. Les modes d'élevage seront similaires à ceux de la France et de l'Europe. Nous, ce qu'on dit, en fait, c'est il faut partir de façon beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a trop de viande bovine en Europe? Oui. S'il y a trop de viande bovine en Europe, on ne signe pas d'accords commerciaux avec le Mercosur qui vont amener encore de la viande sur notre pays et notre continent. Par contre, il faut avoir aussi la cohérence. On vient d'ouvrir, Emmanuel Macron vient d'ouvrir le marché chinois sur la viande bovine française. Donc, soit on est cohérent et on dit... On recentre notre agriculture sur l'espace économique européen, on fait une viande de meilleure qualité, qui correspond à la capacité des consommateurs, une, à se la payer, deux, aux attentes des consommateurs en termes de viande de qualité, on fait quelque chose au service des consommateurs, et à côté de ça, les frontières, elles se ferment d'un côté, mais elles se ferment de l'autre, quoi. On peut pas dire, on veut manger de la viande française en Chine, en Europe, en France, de partout... Et voilà, faut être cohérent. Et nous, le discours de la cohérence, c'est de dire, il faut revoir l'agriculture, il faut une agriculture qui, un, produise une alimentation de qualité, deux, rémunère les paysannes et les paysans correctement, trois, répondent aux attentes des consommateurs, aux attentes des environnementalistes, l'agriculture du futur, l'agriculture d'avenir, un peu celle que prône la Confédération paysanne.
Puisque vous avez évoqué la Chine, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, s'est prononcé hier en faveur de protection pour éviter la spéculation étrangère, et notamment chinoise, puisqu'il répondait à une question sur les Chinois, sur les terres agricoles et favoriser, a-t-il dit, l'installation de jeunes agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème auquel sont confrontés les agriculteurs, l'explosion des prix liés à la spéculation?
Ouais, il y a un problème de spéculation et d'accaparement des terres. Alors, nous, on accueille favorablement les propos de Stéphane Travers sur ce dossier du foncier. Un petit bémol, quand les Français vont accaparer des terres en Ukraine, en Roumanie ou en Pologne, on dit rien. Mais quand les Chinois viennent prendre des terres en France, on commence à crier un peu. Nous, il nous semble que c'est de façon plus générale en France qu'il y a un problème d'accaparement des terres. Il y a effectivement les Chinois dans l'Allier, dans l'Indre. Il y a effectivement aussi, par exemple, Michel Ramery, qui est décédé aujourd'hui, mais l'initiateur de la ferme des 1000 vaches dans la Somme, Michel Ramery, qui avait lui aussi 3000 hectares. Donc il y a des gens qui accaparent des terres. Il y a Bolloré qui a des hectares et des hectares de vignes dans le sud. Donc tout ce problème d'accaparement des terres qui se fait au détriment de l'installation, il va falloir s'y attaquer en frontal. Il y a une loi foncière qui est en préparation. De toute façon, sur ce dossier du foncier, la Confédération paysanne prendra ses responsabilités pour libérer des terrains par la force si nécessaire pour installer des jeunes agriculteurs.
Merci Laurent Pinatel. Bonne journée.
Merci à vous.